BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Guillaume Paul.
18h, bonsoir, bienvenue dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h, en direct bien sûr. Beaucoup de choses dans l'actualité ce soir à vous raconter, à commencer par ce gros gadin en bourse pour Carrefour. L'action perd 4%, pourquoi ? Parce que Carrefour voit se dresser devant lui certains de ses franchisés qui réclament en saisissant la justice une nouvelle façon de travailler. C'est un euphémisme, on va vous raconter ça dans un instant bien sûr. Sinon, alors c'est une question qu'on posait déjà hier soir mais qu'on va continuer à poser ce soir avec nos experts. Faut-il que les patrons s'engagent plus dans la campagne des législatives? Certains sont sortis du bois aujourd'hui encore, à l'image de Maurice Lévy de la CPME et puis Edwige Chevrier. On parlera dans la grande interview dans des minutes puisque c'est l'entrepreneur Pascal Cagny qui sera l'invité de la grande interview. Sinon, on parlera des premiers renoncements du programme économique du Rassemblement National. Il y a eu quelques-uns ces dernières heures. Et puis, allez, on prendra quand même quelques minutes pour disserter sur le sujet bac philo parce que c'était ce matin. Le sujet qu'on a retenu, c'est celui-là. L'État nous doit-il quelque chose? Vous n'avez pas 4 heures, parce qu'on est là jusqu'à 20 heures, on n'a que 2 heures. Mais c'est déjà très bien. Voilà le programme. Très bonne soirée sur BFM Business.
Good Evening Business, le journal.
Donc Carrefour montré du doigt à la fois par des franchisés et par Bercy, qui réclame, Bercy par ailleurs, une amende de 200 millions d'euros pour le groupe en cause. Des clauses jugées abusives dans les contrats passés entre Carrefour et certains, donc, de ses franchisés. Mathilde Cheminade.
200 millions d'euros, c'est le montant préconisé par Bercy. Une amende totalement disproportionnée, selon Carrefour, qui conteste vigoureusement les griefs du ministère de l'Économie. Carrefour est donc assigné au tribunal de Rennes pour la seconde fois. Fin 2023, une association de 170 franchisés a aussi déposé une assignation à l'encontre du groupe. Parmi les reproches faits à Carrefour, des prix de revente conseillés excessifs, l'obligation de s'approvisionner en quasi-exclusivité dans leur centrale d'achat, ou encore l'imposition de clauses de résiliation anticipée au bénéfice du franchiseur et au détriment du franchisé. Ces conditions créent, selon Bercy, une relation déséquilibrée au profit seulement de la maison mère, un déséquilibre qui se serait dégradé, selon les franchisés, depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard en 2017. Le problème, les franchises de proximité représentent plus de la moitié des résultats du groupe. Revoir les contrats des franchises impliquerait une baisse des marges. C'est sûrement ce qui inquiète les marchés. Suite aux critiques du ministère de l'Économie, Carrefour enregistre la plus forte baisse du CAC 40 ce mardi.
Voilà, l'action qui a perdu 4,2%, qu'on a perdu jusqu'à 9% en cours de séance. Que veulent vraiment mettre en avant ces franchisés? On sera en ligne tout à l'heure vers 18h45 avec le président de l'association des franchisés de Carrefour qui nous en dira un peu plus sur ce que veulent ces franchisés exactement. Dans l'actualité également ce soir, il y a le patron de Boeing qui va être auditionné tout à l'heure devant le Sénat américain. Il va être entendu sur la question de la qualité de production chez Boeing. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume.
Audition évidemment très attendue par les familles des victimes des crashs de 2018-2019. Ce sont des familles qui réclament un procès au pénal, Jean-Baptiste.
C'est un véritable acte de contrition que va faire ce soir le patron de Boeing, Dave Calhoun, devant le Sénat américain. Il a prévu de présenter ses excuses personnelles aux familles des victimes des crashs de 2018 et 2019, mais aussi d'exprimer, je cite, parce qu'on a des éléments qui ont déjà fuité dans la presse, d'exprimer au nom du groupe des regrets personnels pour les passagers d'Alaska Airlines dont la porte s'était arrachée subitement il y a quelques mois. Il va le dire aux sénateurs, notre culture de la sécurité est défaillante. Nous prenons évidemment les mesures nécessaires pour la corriger. Et puis Dave Calhoun est attendu au tournant sur le rôle de Boeing face aux lanceurs d'alerte. Il s'agit d'interdire les représailles. Nous nous engageons à faire en sorte que chaque employé se sente habilité à exprimer ses difficultés. C'est ce que doit expliquer Dave Calhoun. La commission d'enquête, elle, bien, va tenter de déterminer si les mesures qui ont été mises en place ces derniers mois par Boeing sont suffisantes. Plusieurs audits et enquêtes ont identifié ces dernières années de nombreux problèmes de non-conformité, des lacunes sur les contrôles qualité. Boeing, je vous rappelle, avait été accusé de fraude pour la certification du 737 MAX et Boeing avait déboursé 2,5 milliards d'euros. Cette audition, elle va être extrêmement tendue parce que les sénateurs américains sont très remontés contre l'entreprise et ses dirigeants. Boeing, pour la classe politique américaine, c'est un véritable trésor national. Ouais. C'est une entreprise qui a été, pendant des décennies, qui a porté les couleurs de l'industrie américaine, qui est aujourd'hui à terre. Et donc, ce sera aussi peut-être l'une des dernières auditions publiques de Dave Calhoun en tant que patron de Boeing, puisqu'il doit laisser sa place à la fin de l'année à Steve Mollenkopf, qui est l'ancien dirigeant de Qualcomm, mais le patron de Boeing, Dave Calhoun, qui partira quand même avec un package de 33 millions de dollars.
Acte de contrition, l'attendant. Ça commence au retour de 20h en français, cette audition du patron de Boeing devant le Sénat américain. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huet avec nous sur BFM Business, 18h05. On va aller faire un saut du côté d'Eurosatory. Vous savez, c'est le salon des industriels de la défense à Villepinte, d'où nous serons d'ailleurs en direct demain soir entre 18h et 20h sur BFM Business. Salon qui a fait l'actualité à plus d'un titre. Vous rappelez qu'il y a 3 semaines, l'organisateur avait, sur décision des autorités gouvernementales, annoncé l'exclusion des exposants israéliens, dont la présence était programmée de longue date. Eh bien, le tribunal de commerce de Paris a jugé cette décision illicite aujourd'hui. Sur place, on retrouve Pascal Samama pour BFM Business.
Sur Eurosatory, personne ne veut ou n'ose évoquer publiquement les conséquences d'une nouvelle majorité sur l'industrie de l'armement. Et bien sûr, le scénario le plus craint serait de revoir à la baisse la loi de programmation militaire qui a été votée, qui s'élève à 413 milliards d'euros entre les années 2024 et 2030. Bien sûr, ce montant doit être validé chaque année par le Parlement. L'aide à l'Ukraine pourrait partir d'une telle situation et par voie de conséquence, la dynamique d'une industrie de l'armement en plein essor. Pour parer à d'éventuelles catastrophes, le ministère des Armées compte notifier avant le 7 juillet une dizaine de contrats prioritaires pour les sécuriser afin qu'ils ne soient pas pénalisé par un nouveau changement de gouvernement.
Pascal Samama, donc, à Eurosatory pour BFM Business. Je vous le disais, on y sera en direct demain soir entre 18h et 20h dans Good Evening Business. Et puis, on voulait dire un mot d'automobile. Il n'y aura pas de miracle pour cette start-up américaine que certains présentaient déjà comme un futur concurrent de Tesla aux États-Unis. La start-up Fisker vient d'annoncer qu'elle déposait le bilan. C'est quand même un signe de plus de la mauvaise passe que traverse le secteur aujourd'hui. Justine Vassogne.
Fisker a bien essayé de s'adosser à un constructeur, Nissan, selon plusieurs médias, mais les discussions n'ont pas abouti. Sans soutien, la start-up fondée par le designer Henrik Fisker, passé chez Ford et Aston Martin, n'avait pas les liquidités nécessaires pour survivre. Un cas loin d'être isolé, aux États-Unis toujours, Lucid Motors, spécialisée dans l'électrique haut de gamme, a dû se séparer de 6% de ses effectifs en mai dernier. Depuis sa création, la start-up a accumulé près de 10 milliards de dollars de pertes. Elle est soutenue par le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui doit régulièrement remettre au pot pour assurer sa survie car le site vend encore très peu de voitures. Chez son concurrent Rivian, on serre aussi la vis avec déjà 2 vagues de licenciements cette année. Lordstone Motors, sans doute un peu trop tôt baptisé le Tesla du pick-up, n'a lui pas échappé à la faillite. L'été dernier, en France, Opium, qui rêvait de commercialiser à grande échelle sa machina, une berline roulant à l'hydrogène, s'est recentrée sur la production de piles à combustible. Pour créer une marque automobile à partir de zéro, résume un acteur du secteur, il faut des milliards, un luxe que la plupart ne peut se permettre.
Voilà, Fisker qui dépose donc le bilan aux États-Unis. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Étienne Braque, Renext à la Défense. Bonsoir Étienne, on a terminé en hausse encore ce soir sur le CAC 40.
Bonsoir. En effet, deuxième séance dans le vert, plus 0,9 hier soir à la clôture, plus 0,76% ce soir, au-delà des 7600 points, 7628 points. Après, on se rappelle à un moins 6% la semaine dernière. À noter que le 10 ans français se stabilise à 3,1% quand l'euro de son côté tente de se reprendre face au dollar à 1,0743. À noter que Kering est l'une des plus fortes hausses du CAC 40, plus 2%, alors que le groupe a fait part à ses analystes eh bien, que la dernière collection de Sabato De Sarno de Gucci commençait plutôt bien, donc la valeur retrouve les 310 euros ce soir à la clôture, alors qu'à l'inverse, LVMH ou encore Hermès et L'Oréal perdent plus d'1% ce soir à la clôture avec une note de Bain qui évoque un marché compliqué actuellement en Chine et d'une certaine façon une honte du luxe comme les États-Unis ont pu le connaître lors de la crise financière il y a un peu plus de 10 ans. Donc tout ça, bien sûr, frappe le secteur du luxe qui est l'une des rares baisses ce soir à la clôture. Et donc l'indice parisien qui clôture en hausse de 0,76% au-dessus des 7600 points à 7628 points.
Merci beaucoup Étienne, on regarde ce qui se passe à Wall Street, mi-séance bien sûr sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 0,15%, 38 836 points. L'indice Nasdaq, lui, qui perd 0,12%, c'est calme, 17 835. 18h09, c'est donc le dirigeant d'entreprise Pascal Cagny qui est l'invité d'Adil Chevrillon dans un instant. C'est la grande interview bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Adil Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va essayer de comprendre un peu la répercussion de ce qui se passe au niveau de ces élections législatives, du choc que peut entraîner la victoire des extrêmes, pour reprendre les expressions. On va en parler avec celui qui était le monsieur investissement internationaux, investissement étranger en France. Bonsoir Pascal Cagny.
Bonsoir Madame Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de C4 Venture, dirigeant d'entreprise. Si je dis ça, c'est que là, vous êtes sur ce plateau en tant que dirigeant d'entreprise qui a dirigé Apple Europe pendant 12 ans, qui a été à Londres, à Paris. Moi, en tant qu'institution Business France, mais vous estimiez, un peu comme l'a fait tout à l'heure Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis, vous considérez qu'il faut s'exprimer aujourd'hui. Pourquoi ?
Après 10 jours de cette dissolution, j'ai été effaré, et je le suis encore, par le silence. Le silence de tous les patrons de groupes étrangers, de tous ces patrons de PME qui finalement sur ces 10 années passées ont bénéficié essentiellement depuis le pacte de responsabilité sous le gouvernement Hollande d'une 10 années exceptionnelle. Non pas qu'ils ont multiplié les profits, mais ils ont pu enfin, après 2 ou 3 décennies où ce pays n'était pas lui-même, n'a jamais été le plus attractif, enfin ce pays est devenu le plus attractif. On a pu démontrer au monde des atouts rares exceptionnels. Donc je pense qu'il est maintenant important que ces gens qui ont bénéficié, participé à la création de plus de 2 millions d'emplois, ceux qui ont participé et qui représentent 2,2 millions d'emplois, ce sont ces 17 000 entreprises étrangères, s'expriment un peu mieux. Donc je veux essentiellement leur dire aujourd'hui, il faut aller rencontrer leurs salariés, ceux qui ont voté à l'extrême droite, à l'extrême gauche, expliquer ce que seront les décisions de leurs sièges internationaux, en se rappelant que plus de 30% des exportations françaises sont faites par ces entreprises étrangères. Plus de 1 oui. dollar ou 1 euro de chiffre d'affaires fait par en France est fait par les entreprises étrangères. Donc je pense qu'il faut se mobiliser et simplement rendre les choses un peu plus claires.
Quand vous dites le silence de ces investisseurs internationaux, de ces dirigeants de filiales de groupes étrangers, est-ce que vous les avez testés? Vous avez discuté avec eux? Ou là, c'est là, ce soir, vous pouvez... C'est presque en fait un cri d'alarme et un coup de gueule.
Écoutez, les ai testés, mais je suis surtout surpris de leur silence, de leur non-tribune, du fait qu'ils ne soient pas allés encore chez moi en Anjou, dans le Courrier de l'Est, ou là où je suis né, en Alsace, dans les dernières nouvelles, en expliquant que les extensions d'entreprises qu'ils peuvent avoir ne se feront plus de la même façon. Parce que face au risque d'instabilité à la fois politique et économique, on va mettre ces investissements au-delà du territoire français. Or, c'est sur ces 10 années passées, près de 350 000 emplois qui ont été créés, près de 1000 projets qui ont été gérés, et je crois qu'il est important qu'au moins on mette les chiffres sur la table, qu'on explique en respectant profondément les électeurs ce qu'il en est.
On va revenir là-dessus. Vous les connaissez tous, vous êtes un des organisateurs de Choose France, donc ce sommet à Versailles, où on défilait maintenant depuis 3 ans, 4 ans, des grands dirigeants d'entreprise pour leur dire, regardez comme notre pays est beau et comment la France est devenue, si l'on croit le baromètre EY, le pays le plus attractif, et puis ça se démontre par des chiffres, presque 2000 projets ici en France en 2023. Est-ce que ces grands patrons ou ces investisseurs, vous les avez eu au téléphone et ils vous disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que du coup ils sont sur le mode pause pour pas dire qu'ils soient sur les deux freins, les deux pieds sur le frein?
Je répondrai, mais il faut d'abord bien se rendre compte que pendant 3 décennies, jamais, lorsque vous étiez hors d'Europe et que vous regardiez où investir pour pouvoir conquérir ce fameux marché européen, vous n'alliez mettre la France sur la première marche. Quoi qu'on pense du président Macron et de la politique menée jusqu'alors sous la houlette notamment du ministère de l'économie, Monsieur Le Maire, il faut bien reconnaître qu'ils votent avec leur carnet de chèques et ils ont créé des jobs. Ils ont fait de la France l'endroit où sans doute l'intelligence artificielle est la mieux nommée. C'est aussi un endroit où plus de 300 entreprises sont réouvertes. Quand j'ai commencé mon mandat cette année, on parlait du nombre d'entreprises et de sites industriels qui fermaient. C'est l'inverse aujourd'hui. Et donc effectivement, ces patrons d'entreprises aujourd'hui sont préoccupés. Ils ont le choix. Rappelez-vous qu'ils ont le choix. Ils ont le choix d'aller
en Allemagne.
Ils ont le choix d'aller en Allemagne, d'aller en Italie, d'aller en Espagne. Mmh. Ils nous l'ont montré pendant 3 décennies. Et donc, je pense qu'il est important qu'on rediscute avec nos salariés, avec nos cadres dirigeants, qu'on réexplique ce qui est en cause.
Oui, enfin, je ne suis pas complètement d'accord. C'est plus avec aux sièges sociaux, parce que c'est là où se prennent les décisions. De savoir où est-ce que je vais investir, est-ce que je vais créer mon usine plutôt en Allemagne, plutôt en France ou plutôt en Italie. C'est plutôt en haut qu'il faut aller voir.
Moi, je pense qu'il faut faire 2 choses. Il faut d'abord aller écouter les gens qui ont fait un vrai signal d'alarme, qui se sont défoulés, reconnaître que c'est le droit le plus strict de notre Constitution, comme c'était le droit le plus strict, article 12, la Constitution, au président de faire la discussion.
Oui, oui,
mais il faut qu'ils aillent aussi nourris de ces enseignements. Parce qu'on parle de vote. Dans 15 jours, c'est trop tard. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et qu'on fête l'appel du 18 juin. Le thème qu'utilisait le président, le général de Gaulle alors,
c'était
le destin du monde est là.
Oui.
Eh bien, le destin de la France est là aujourd'hui. Et dans les 15 jours, on aura un destin dramatiquement différent. On est en train de réentrer dans l'histoire, d'être vu et perçu comme le pays qui lead l'Europe. Et je pense que les chiffres vous montrent jour après jour qu'on a fait des progrès. Alors, pas assez, mais pensez-vous simplement que se refermer sur soi, pensez-vous simplement augmenter les impôts, pensez-vous avoir une préférence nationale fait que nos entreprises qui exportent ne seront pas elles-mêmes confrontées à ce repli général en Europe. Donc je pense que je suis un citoyen engagé et qu'on ne peut pas laisser faire cela sans s'exprimer.
Pascal Canillet, deuxième partie de ma question, c'était est-ce que là, vous avez des coups de fil, des gens qui vous demandent expliquez-moi ou explique-moi what's going en France? Qu'est-ce qui se passe en France?
Alors je le dis surtout, ne me parlez pas de Mélanie et de l'Italie.
Oui.
Ne pensez pas.
Oui, oui, non, que mais est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce que le patron d'Apple que vous connaissez, est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'ils vous ont appelé là?
Tout de suite.
Tout de suite.
Et ils me disent.
Ils vous disent quoi?
Je leur dis 2 choses. Je leur dis.
Non, mais qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ils me disent quelle est ta lecture de la situation.
Voilà.
Et militant comme je suis, loyal au président de la République comme je le suis, je leur donne une situation qui est simple, avec la possibilité d'un sursaut, où il faut en fait faire en sorte qu'il n'y ait pas une voix extrême qui soit tout seul au pouvoir, et que à la faveur des 2-3 années à venir, on puisse continuer les réformes qui sont les nôtres. Donc je suis totalement militant, je l'assume parfaitement, et je leur dis mieux encore, surtout ne me donnez pas cette comparaison avec Mélanie, qui évidemment n'avait en rien les mêmes politiques proposées que ceux de notre extrême droite, et que nous sommes en rien un État ultra-gauchiste. Donc je leur dis qu'en gros, il faut qu'ils mobilisent leurs salariés, mobilisent leurs cadres, continuent à espérer dans notre pays. On ne les a pas déçus depuis plus d'une décennie, et ça ne saurait se faire dans les
années à venir. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la France devienne moins attractive, s'il y a, parce qu'on ne va pas retrouver la situation précédente, hein, même si vous êtes un militant, Pascal Canillet, vous êtes lucide, il n'y aura certainement pas une majorité pour le parti du président, la majorité présidentielle. Donc, est-ce que la France va perdre son attractivité?
La France a déjà perdu son activité, à la faveur du vote des élections européennes, mais de la même façon qu'ils ont pris le coup des Gilets jaunes, des multiples manifestations, réformes, souvent très violentes, et que en regardant et en voyant un pouvoir qui résistait tout en écoutant sa base électorale le mieux possible, et qu'ils ont continué à investir, là ils sont en train d'être dans une période où ils nous jugent, une forme de période probatoire. Mais il n'y a aucun doute, si nous avons des extrêmes quels qu'ils soient, que cette attractivité retrouvée depuis 5 années, mesurée, va être absolument perdu. Vous savez, il est facile de bâtir une marque en quelques... Il faut des années pour bâtir une marque.
Oui, vous savez bien, vous l'avez battu, France, Apple.
Quelques secondes, on peut la perdre. Et ce 9 juin, cette marque a pris un coup très fort. Mais il ne faut pas désespérer, parce que je vous rappelle qu'au milieu de la crise des Gilets jaunes, j'avais les mêmes batailles, moi qui étais en charge de l'attractivité, pour expliquer qu'en fait, nos atouts sont les mêmes, nos gens sont raisonnables, nous avons des réformes et des choses à apporter au monde.
Alors, hier, il y avait un excellent papier de Thomas Asportas qui expliquait, de Carlo Marisso, qui expliquait que les patrons français avait été voir ou aller voir le Rassemblement National dans un appartement dont on ne connaît pas l'adresse, où il y avait juste Marine Le Pen, il y avait juste Jordan Bardella, pour discuter avec le Rassemblement National. Est-ce que vous savez s'il y a eu des patrons de groupes étrangers qui ont fait la même chose?
Je n'en ai pas connaissance et j'en serais totalement surpris. Je pense que la gouvernance de ces grands groupes n'y appartient pas, mais je vais investir ce sujet.
C'était l'aide du Financial Times hein, qui expliquait voilà, que le Rassemblement National avait rencontré des grands patrons.
Oui, mais que les grands patrons essaient de comprendre un programme qui change chaque jour et qui dit tout et son contraire, c'est un peu normal, puisque je vous rappelle que ce qu'ils ont voté avec leur carnet de chèques et avec leurs investissements, c'est fondamentalement une forme de stabilité politique. Je me suis retrouvé devant des investisseurs étrangers à leur dire que nous sommes un océan de stabilité, c'était il y a encore quelques années. Donc je pense qu'on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à chaque personne qui essaye de comprendre ce qui se passe. Par contre, je pense que ce qu'il faut, c'est que mes patrons étrangers, et je reviens sur mon propos, puissent eux aller au front, aller dans les sites, aller dans cette vallée merveilleuse où vous avez des entreprises de l'aérospatiale, celle où un Dakar on crée plus de 20 000 emplois,
alors, voilà,
et qu'on explique aux salariés ce que ça veut dire.
Pascal Cani, justement, là on a listé à peu près les top 5 des investissements d'entreprises étrangères en France en 2023, et dont certains ont été annoncés à Choose France ou avant. Vous avez Prologium, 5 milliards d'euros, vous avez Microsoft, vous avez Amazon, mais Microsoft c'est 4 milliards pour créer donc des data centers en France. Amazon, c'est un sens de logistique. Est-ce qu'à votre avis, ces projets-là, ce sont des projets encore, ils ne sont pas concrétisés, est-ce qu'il y a une chance, une probabilité que Microsoft dise « Ah ben non, terminé ».
Ça dépend dans le niveau d'avancement dans lequel ils sont, mais sur celui de Microsoft, c'est absolument probable puisqu'on en est à une phase finalement assez prématurée.
Oui, oui.
On en est simplement à avoir choisi quelques sites, avoir un engagement de Microsoft de former près d'un million de Français sur l'intelligence artificielle. Donc, clairement, ils vont se faire fort de réviser et de remettre sur la table et de jouer, en fait, s'assurer que l'investissement qui, une fois qu'il est installé chez moi, au Petit Landau, par exemple, en Alsace, là où étaient Olivier Becht et notre ami Rottner, patron de la région S, qui ont tous deux contribué à cela, eh bien qu'ils se posent la question de savoir si c'est la bonne le bon investissement pour les 5-10 années à venir.
Donc,
soyez certains que la réaction du privé, qui, même s'il travaille sur le temps long, à l'aptitude à gérer et à bouger bien plus vite que la chose publique, à tort ou à raison, va être sans doute assez violente, même très violente, et que ça se traduira de manière très très concrète, pragmatique, en baisse d'investissement, refocalisation des ressources, moins de centres de recherche et développement, c'est écrit dans les tables de la loi.
Oui. En plus, la politique de l'offre, alors question que je poserai du reste aux différents candidats que je dois interroger jeudi matin sur leur programme économique, c'est la politique de l'offre, comme on dit. Est-ce qu'ils vont la maintenir ou pas? Certains, la majorité présidentielle, vont dire oui, enfin du moins j'imagine, mais peut-être pas complètement comme ça a été avant. Et puis, le poids du crédit impôt recherche aussi, ça, c'était un booster très fort hein, pour vous, pour aller vendre la France. Mais on peut imaginer qu'il y en ait beaucoup, notamment les extrêmes, disent on va peut-être arrêter, quand même, ça coûte très cher à la France.
Ça coûte 5 milliards à la communauté nationale. Mmh. On parle de 28 000 entreprises qui en bénéficient, étrangères et bien françaises. Cela nous a permis d'attirer plus de 20% des centres de recherche-développement qui se font en Europe. Quand on attire un centre de recherche-développement, on sait qu'après, il est plus facile d'avoir un centre de production qui crée du volume en termes d'emploi. Mmh. Donc cette décision est importante. Cela fait plus de 10 ans, et c'est une des rares mesures fiscales qui, grâce à sa pérennité sur près de 10, 15, 20 ans, a démontré aujourd'hui
son succès. Parce que ça a été créé par François Hollande.
Et ça vous permet, de la même façon que le succès de la French Tech a été clair, que les 300 usines qui ont été récréées nous permettent d'avoir des langages et de dire des choses très concrètes aux investisseurs, je crois que c'est extrêmement important qu'on maintienne cela. C'est important qu'on maintienne aussi l'équivalent ou la réponse à l'IRS sur l'industrie verte. Il faut savoir que ce pays a besoin de 120 milliards chaque année pour assurer cette transition écologique. Pensez-vous que nos amis de chez AbbVie ou, pour ne pas les nommer, ceux de Pfizer ou même de AstraZeneca vont continuer à vouloir investir, pour l'exemple d'AstraZeneca, 365 milliards, millions dans le Nord pour pouvoir rendre leur production plus verte et montrer l'exemple.
Ouais.
Pensez-vous que Novo Nordisk, qui n'a investi que hors du Danemark qu'en France, continuera à investir les 2,2 milliards qu'ils ont fait et qui leur permet d'ailleurs de payer des salaires, généralement dans les entreprises étrangères, de 10 à 15% supérieurs au reste du pays. Donc je crois qu'on a une... c'est ma responsabilité de vous le dire, en tant que citoyen engagé qui a décidé il y a 7 ans de quitter l'Angleterre, de rentrer en France et de participer à cet élan national, de vous dire qu'on peut être patriote de tous bords, que je respecte toutes les idées qui sont les nôtres, mais là, la situation est très grave. Et ce que j'aimerais simplement vous redire pour la troisième fois, c'est que je souhaiterais que tous les patrons d'entreprises étrangères prennent leur bâton de pèlerin, aillent expliquer, mettent les chiffres, montrent comment le processus de décision s'est pris hier et se prendra peut-être demain à la faire de cela. Si on a fait ça, on aura fait notre responsabilité. On aura fait notre job et on aura au moins été cohérent avec ce qu'on a essayé de faire depuis de longues années.
Est-ce que vous estimez justement que les chefs d'entreprise sont un peu frileux? Parce que même les syndicalistes, je recevais le patron de Force Ouvrière qui dit, nous, depuis 76 ans, on se mêle pas de politique. Donc, c'est pas nous, on n'est pas, c'est pas dans notre job. Le MEDEF, il dit un peu la même chose.
Je ne sais pas s'ils disent la même chose, je le souhaite que non, mais je pense que oui, au global, il y a énormément... c'est très frileux. La première semaine, là, il fallait que tout cela se décante. C'est maintenant qu'il faut qu'on prenne la parole, qu'on aille discuter avec les gens qui ont des revendications souvent légitimes, mais qu'on leur montre de manière très concrète les conséquences de la décision. Le refouloir que devaient jouer les Européennes est allé un peu plus loin. On l'a fait historiquement... maintes fois, mais là, la situation est très très grave, et quand je vous dis que le destin de la France se joue, je pense que le destin de la France se joue pour ces jeunes générations qui ont d'ailleurs massivement voté pour les extrêmes, il faut juste leur parler et s'exprimer.
Oui, est-ce que vous, par exemple, à supposer que ce soit le Rassemblement National qui le gagne, si jamais vous avez un des grands patrons étrangers qui vous dit, tiens, tu veux pas m'organiser une rencontre avec Jordan Bardella ou on ne sait pas qui sera son éventuel ministre.
Je serai totalement patriote pour utiliser leur dialectique et je ferai tout en sorte pour qu'on puisse organiser cette rencontre. Bien sûr, ce sera ma responsabilité dans l'engagement que j'ai pris et je compterai d'abord sur le
et
bon
sens. Et vous ferez la même chose avec le nouveau Front Populaire ?
Et je ferai la même chose sur le nouveau Front Populaire. Oui. Et c'est pour ça que je suis heureux de m'exprimer vers vous, puisque au moins il n'y aura aucun doute sur ce courrier ou ce centre qui doit encore exister, qui était impératif d'exister si on préservait des emplois et un certain bien-être dans le pays du bien-être.
Oui, et en tous les cas, comme vous dites, il y a un vrai risque de perte d'attractivité de la France. Et surtout, ce qui était intéressant, ce que vous disiez aussi sur la French Tech, sur la transformation écologique qui a un peu disparu dans la bataille de programme. Or, c'est très important, notamment
pour l'avenir. Et surtout que notre crédit d'impôt verte annoncé le 13 mai 2022, toutes ces politiques menées par le ministre Béchu, aujourd'hui, ont extrêmement été appréciées. Et quand vous regardez nos 56 investissements qui sont ceux de Choose France, ou le bilan que l'on a publié en tant qu'agence il y a quelque temps, on se rend compte que la part du vert est extrêmement importante. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles les étrangers sont venus en France pour investir sur notre territoire.
Merci beaucoup Pascal Cani en tous les cas d'être venu ici exprimer un peu votre inquiétude pour pas dire autre chose par rapport à cette situation politique française et l'impact que ça peut avoir et puis votre appel surtout pour que les patrons d'entreprises étrangères et notamment en France s'expriment et discutent avec leurs salariés. Merci beaucoup Pascal Cani, tout de suite toute l'écho, toute l'info écho, c'est avec Guillaume Paul comme tous les soirs.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts sont là. Ils vont être là jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Audrey Tcherkov est là aussi. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Également comme tous les soirs jusqu'à 20h. Et nos experts, Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Jean-Marc, bonsoir. Éditorialiste chez Atlantico. Puis Edwige Chevrillon, bien sûr. Oh, bonsoir Edwige.
Bonsoir Edwige.
Bon, donc c'est une question qu'on pose depuis hier soir, on a commencé à en parler, on va continuer. Est-ce qu'il faut que les patrons s'engagent davantage dans cette campagne des législatives et alertent évidemment contre les programmes qui du RN, qui du NPF, Audrey hein.
Et alors justement, on avait un patron tout à l'heure au micro, d'Edwige Chevrillon, Pascal Cani, lui-même entrepreneur. On a aussi vu d'ailleurs Maurice Lévy, le président d'honneur de Publicis, qui a publié une tribune dans Le Monde ce soir. Est-ce que les patrons doivent faire plus? En tout cas, c'est ce que Pascal Cani vous disait, Edwige.
Oui, absolument. Pascal Cani, c'est monsieur ambassadeur, monsieur investissement étranger en France, et Choose France, puis il est toujours... ambassadeur et président Business France. Là, il voulait dire qu'il s'exprimait à titre personnel, en tant que c'est un gros investisseur. Hein. Il a passé 12 ans chez Apple, il a gagné beaucoup d'argent avec ses stock options. Et surtout, il s'occupe de l'attractivité de la France depuis une dizaine d'années. Et lui, ce qu'il disait, c'est que là, il y a une vraie perte d'attractivité quasiment immédiate. En fait, au lendemain des élections européennes, enfin du résultat des élections européennes, alors évidemment avec la dissolution, et ce qui se passe là, il a eu des coups de fil de plusieurs grands patrons qui lui ont dit, mais bon, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta lecture de ce qui se passe en France? Et ensuite, je lui disais, mais est-ce que du coup, il pourrait mettre sur les investissements qu'on a eu, on était à Choose France ensemble, on a discuté de savoir qu'est-ce qu'elle allait venir, on a vu là, on a fait le listing des investissements qui ont été faits en 2023, il y en a quand même quasiment près de 2000. Et là, il disait, bah oui, il y a certains qui n'ont pas encore commencé, type Microsoft, hein, 4 milliards d'investissements pour ces data centers. Ils en sont au tout début, ils ont juste à peine choisi les sites. Bah, c'est sûr que si la situation politique ne leur convient pas, ils iront les mettre ailleurs.
Donc il faudrait faire une croix sur tout ce qui a été annoncé à Choose France, il faudrait faire une croix sur tout ce qui a été annoncé à Choose France.
Oui, oui, c'est exemple, certain. Année, oui, ça dépend. Non, il a dit, il faut être prudent. Ça dépend de l'investissement, de l'état d'investissement du projet.
Alors on va écouter Pascal Caille qui disait aussi, c'était sa première réponse, il a secoué un petit peu les patrons de filiales étrangères en France en disant, c'est à vous d'aller voir vos salariés sur leur terrain pour le mobiliser. Vous me direz ce qu'on vous en pensez, mais on l'écoute, Pascal Caille.
Après 10 jours de cette dissolution, j'ai été effaré, je le suis encore, par le silence de tous les patrons de groupes étrangers, de tous ces patrons de PME, qui finalement, sur ces 10 années passées, ont bénéficié essentiellement depuis le pacte de responsabilité sous le gouvernement Hollande, d'une 10 années exceptionnelles. Non pas qu'ils ont multiplié les profits, mais ils ont pu enfin, après 2 ou 3 décennies où ce pays n'était pas lui-même, n'a jamais été le plus attractif, enfin ce pays est devenu le plus attractif. On a pu démontrer au monde des atouts rares exceptionnels. Donc je pense qu'il est maintenant important que ces gens qui ont bénéficié, participé à la création de plus de 2 millions d'emplois, ceux qui ont participé et qui représentent 2,2 millions d'emplois, ce sont ces 17 000 entreprises étrangères, s'expriment un peu mieux. Donc je veux essentiellement leur dire aujourd'hui, il faut aller rencontrer leurs salariés, ceux qui ont voté à l'extrême droite, à l'extrême gauche, expliquer ce que seront les décisions de leurs sièges internationaux, en se rappelant que plus de 30% des exportations françaises sont faites par ces entreprises étrangères. Plus de 1 dollar ou 1 euro de chiffre d'affaires fait par en France est fait par les entreprises étrangères. Donc je pense qu'il faut se mobiliser et simplement rendre les choses un peu plus claires.
Ben, là où Pascal Cagny a raison, mais vous allez nous dire Jean-Marc, c'est que, il faut le rappeler quand même, l'État est censé emprunter 285 milliards d'euros sur les marchés financiers cette année pour financer son modèle social, pour financer les retraites, les services publics, les enseignants, les policiers, les infirmiers, etc. Et il y a de fortes chances pour que si le programme de l'extrême gauche ou de l'extrême droite était appliqué, eh bien que les investisseurs étrangers exigent un taux d'intérêt de plus en plus élevé, voire ne prêtent plus du tout.
Non, mais il y a déjà un premier effet. Une partie de la dette française est en train d'être vendue pour acheter de la dette espagnole à la place.
Ou allemande,
Ou allemande, mais plutôt espagnole.
Plutôt espagnole,
j'ai cru comprendre la semaine dernière qu'il y avait un mouvement important vers l'Espagne qui était relativement presque moins cher que la dette française.
Et le Portugal aussi qui était
oui,
moins
voilà,
cher.
Oui, voilà, c'est ça.
Et qui offrait une certaine stabilité.
On emprunte plus cher que le Portugal aujourd'hui.
Et politique. La deuxième inquiétude, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'investisseurs, notamment ceux qui étaient réunis à Choose France à Versailles, il en avait pour à peu près 15 milliards, qui, a priori, ont suspendu leurs études et leurs décisions d'engager. Il y a une suspension, on l'a mis entre parenthèses, en attendant que d'y voir plus clair. Moi, ce qu'on m'a dit quand j'ai interrogé certains banquiers d'affaires ou des choses comme ça, c'est qu'on leur pose 3 questions de la part des investisseurs. On leur pose 3 questions parce qu'ils sont absolument ahuris de tout ce qui se passe. La première, c'est: pouvez-vous nous expliquer clairement pourquoi votre président a pris cette décision? Comme ça, un dimanche soir, subitement. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il prenne ce genre de décision?
Alors, en même temps, c'est une question légitime. Hein.
C'est une question légitime.
Qu'est-ce que les répondre à ça?
Que tous les Français se sont... Enfin, la plupart des Français se sont posés.
Et qu'ils continuent à se poser, oui.
Y compris le Premier ministre. Oui.
La deuxième question qu'ils posent à leur même correspondant, banquier d'affaires, donc sur la place de Paris, Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Quels sont les rapports de force politique qui sont en présence?
Oui.
Les rapports de force politique, ils ne comprennent pas que nous soyons pris en mâchoire entre deux groupes extrémistes, un extrémiste de gauche et un extrême de droite, qui finalement ont tous les deux, même s'il y a des divergences un peu, des scénarios de rupture par rapport au système économique dans lequel ils vivent. Et puis troisièmement, qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours à l'issue des élections législatives? Il n'y a évidemment pas de réponse, donc ils attendent. Et ils sont de ce point de vue-là assez paralysés. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre chose? Est-ce qu'ils peuvent, comme vous le suggérez, faire campagne? Je ne le crois pas. Ce n'est pas le rôle d'un patron de venir sur des plateaux de télévision et de faire campagne.
Alerter sur le... comme l'a fait la FEP quand elle a fait le CPME.
La FEP a fait un communiqué.
Parce qu'il y a un vrai risque de décrochage quand même, Jean-Marc Sylvestre.
Oui, je sais. Oui. Mais ce que je crois savoir, c'est que parallèlement au communiqué de la FEP, il n'y a pas eu de communiqué du MEDEF d'ailleurs.
Non, je sais.
Vous avez remarqué.
Non, mais parce qu'il y a ce débat, du reste, que j'ai l'honneur d'animer jeudi matin.
La CPME a fait des communiqués, l'éthique a fait des communiqués, mais en dehors de ça, je crois savoir, c'est pas un secret c'est pas qu'il y a des conversations avec un certain nombre de partis, notamment du côté de l'extrême droite.
C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de communiqué, parce qu'il pourrait très bien dire attention.
Soit qu'ils font de lobbying.
Ça vous semble pas inaudible quand même, les organisations patronales?
Ils ont trois contre-pouvoirs à gérer et qui sont des contre-pouvoirs qui fonctionnent pas forcément dans le même sens.
Leurs
actionnaires, leurs salariés et leurs clients, leurs consommateurs.
Il y a un vrai risque quand même pour eux, pour les chefs d'entreprise, c'est que la fin de la politique de l'offre, comme on dit.
Voilà.
Donc il y a toutes les chances quand même. En tout cas, même si au cas où c'est la majorité présidentielle qui l'emporte, il y a peu de chances au regard des sondages, mais ça, comme disait Gabriel Attal ce matin, on remonte, on est déjà passé de 14 à 18, donc voilà, peut-être qu'il y croit. Mais là, il y a un vrai risque. Le crédit impôt recherche, on en parlait à l'instant, là aussi, il y a un vrai risque, parce que ça coûte 5 milliards. Certains considèrent que c'est beaucoup trop. On a vu plusieurs fois, pourtant, et pas des extrémistes, genre Valérie Rabault, donc qui dirige le groupe PS à l'Assemblée nationale, dire, attention, le crédit d'impôt recherche, ça coûte trop cher.
Oui.
Donc, on a trop donné aux entreprises, ça c'est un leitmotiv qu'on entend, y compris à droite comme à gauche, enfin extrême droite, extrême gauche.
Oui, enfin, sauf que, Edwige, est-ce que, en effet, j'en reviens à la question de Jean-Marc, est-ce que le chef d'entreprise est dans la bonne position pour passer ce message-là à ses salariés qui, évidemment, quand on leur dit, on va augmenter le SMIC, par conséquent, on va augmenter votre pouvoir d'achat, on va revenir sur des mesures très clientélistes comme l'ISF, c'est difficile pour le chef d'entreprise en France qui, par définition, n'est pas forcément aimé, d'endosser ce rôle-là.
Justement, il faut qu'il soit beaucoup plus aimé. J'ai l'impression, quand même. Non, mais c'est important.
Oui, on est d'accord.
Là, vous soutenez un peu un vieux fond qu'on entend depuis longtemps en France, comme chez l'entreprise, sont tous des voleurs ou des exploitants.
On le dit
dans la presse sous couvert d'anonymat. On sait qu'on a une image déplorable auprès du grand public.
Ça s'est amélioré.
Je ne suis pas sûr que le chef d'entreprise ait une si mauvaise image.
C'est les grands patrons.
Ça n'est pas vrai. Les grands patrons, on reconnaît que les grands patrons sont apporteurs de devises, sont apporteurs de commerce.
Je crois
qu'il y a un risque pour les petites et moyennes entreprises.
Surtout, ces petites et moyennes entreprises
s'en inquiètent et en parlent avec leurs salariés parce qu'ils ont un rapport qui est relativement direct avec leurs salariés.
Bien.
En revanche, au niveau des grandes entreprises, vous savez, ils s'en préoccupent pas trop parce que 90% de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger, 50% de leurs actionnaires
sont à l'étranger. Ils pourront aller se faire cotiser.
Leur seul problème, c'est de savoir si, vous savez, le seul problème de la multinationale française, c'est de savoir s'ils conservent son siège à Paris,
sauf que justement, ces grandes entreprises qui font en effet 80-85% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, elles se sont plutôt mouillées, puisque la FEP a vraiment pris position pour le coup.
En disant qu'il y a un risque de décrochage, parce qu'il est déjà là,
il était déjà là, avec les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, on est coincé.
Bon allez, on va faire comme tous les soirs notre point météo à nous. Vous avez commencé hier, Guillaume, on continue. Puisque depuis l'annonce de la dissolution, on jette un œil tous les soirs donc sur le taux à 10 ans français, qui n'a pas trop bougé aujourd'hui.
Alors qu'est-ce que ça donne? On va regarder ça, le taux à 10 ans français. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3,10. Donc ça se détend. On était à 3,15 hier. Et d'ailleurs, c'est la question, est-ce que les marchés ne pourraient pas se rassurer un petit peu? Je ne sais pas s'il y a un lien entre cette détente et le fait qu'on voit le Rassemblement National qui est en train de renier certaines de ses proposition au plan économique. Vous avez vu ce qui se dit sur les retraites, oui. C'est plus tout à
le
fait clair.
Un grand renoncement,
ce qui se dit notamment sur l'impôt pour les actifs de moins de 30 ans, ce qui se dit sur la baisse de la TVA, sur les produits de première nécessité. Est-ce qu'on est en train petit à petit
Il faut dire que l'éventualité d'accéder au pouvoir fait réfléchir.
Oui, l'éventualité de l'accès au pouvoir se fait réfléchir, mais cette éventualité, elle n'est pas garantie, hein, elle n'est pas sûre et certaine. Ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est que la pagaille absolument invraisemblable qui règne au centre de l'extrême gauche fait penser qu'ils ne pourront pas arriver au pouvoir et qu'ils auront du mal en étant au pouvoir à s'organiser pour pouvoir gérer le pouvoir. D'autre part, du côté de l'extrême droite, c'est vrai que les reniements quotidien, on attend de voir ce qu'ils vont inventer pour demain.
Les renoncements, plus que les renoncements, parce que reniements, ils reviennent
les retards,
pas.
Les retards, oui, banalisent un peu l'extrême droite et la droitise, la banalise, quoi, en gros, et que après tout, on pourra éventuellement... Ils laissent filtrer qu'ils sont en contact avec des chefs d'entreprise, qui sont en train de négocier un certain nombre de choses. Cela dit, il y a quand même des coups de gueule qu'on ne comprend pas bien. Bah oui, si.
Non, je sais pas. On sait qu'ils se sont rencontrés. Le mot négocier est important.
Ils ont quasiment nommé leur ministre de l'économie. Oui, Tanguy.
Monsieur Tanguy serait.
Oui, c'est un peu lui qui est pas.
Sauf que Jordan Bardella a annoncé qu'il n'irait pas s'il n'avait pas de majorité.
C'est ça la surprise du jour. C'est qu'il a dit, puisque s'il n'y a pas de majorité absolue, nous n'irons pas.
C'est aussi une façon de mettre les Français devant leurs responsabilités.
Ouais, enfin, ça, c'est sûr.
Très dangereux, quand même.
Très dangereux.
Oui, et de se protéger aussi, Edwige, parce qu'ils savent très bien qu'en effet, sans majorité, ça va être un chaos total et qu'ils ne veulent pas. Justement.
Sans
majorité, il risque des motions de censure. Très étonné comme de se renoncer.
On a vu ce que ça donnait.
Ils seraient obligés d'être beaucoup plus, peut-être raisonnables dans leur programme économique.
Moi, je suis très étonné par ce renoncement sur la baisse de la TVA, vous savez, sur les produits de première nécessité, qui était vraiment, parce que ça devait être ça, la première salle, vraiment, sur le pouvoir d'achat des Français. C'était là-dessus qu'on voulait attaquer tambour battant une fois les élections législatives.
Il y a quand même des gens qui leur ont expliqué que c'était une absurdité totale. C'est une absurdité de cette
avec ça qu'ils voulaient frapper les esprits.
Mais non seulement ça ne sert à rien,
jeu après les
mais ça engraisse les marges des distributeurs, puisqu'ils les gardent avec eux. Et puis d'autres
et ça arrose tout le monde.
Ça coûte 10 milliards.
Ça coûte 10 milliards.
C'est pas grand-chose, 10 milliards, remarquez.
On en est, non.
Dans le problème. On parle par unité de 100 milliards.
Mais du coup, moi,
milliards.
Je pense que c'est le grand risque. C'est le grand risque pour le Rassemblement National, c'est que toutes les mesures phares qui séduisaient, je parle sur le plan économique, hein, pas sur le plan immigration, c'était le blocage des prix sur les produits de biens de grande nécessité, la baisse de la TVA, et là, en renonçant, quelque part, ils perdent de leur attractivité, puisqu'on en parlait sur un autre sujet, l'attractivité.
Ça, c'est tout le problème des partis d'opposition. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est vrai que c'est assez confortable, vous pouvez presque dire tout et n'importe quoi, et que vous arrivez au pouvoir, vous êtes confronté au mur des réalités. Oui, c'est compliqué.
J'ai l'impression de voir le mur des réalités avant même les élections.
Oui, absolument. Bon, un autre principe de réalité auquel a été confrontée une entreprise, c'est Carrefour. Hein. C'est le gadin du jour, en tout cas la Bourse de Paris. C'est l'action Carrefour qui a dévissé de 4,2%. Alors, en cause, cette mise en cause justement de Bercy, qui juge que sa relation avec ses franchisés est clairement déséquilibrée et qui préconise une sacrée amende.
Et puis, pas une petite amende, 200 millions d'euros, Bercy qui donne raison en quelque sorte. Vous savez, un collectif de franchisés de Carrefour qui a déposé une assignation contre le groupe, il juge en effet abusive certaines clauses adossées à des contrats de franchise. On est en ligne pour en parler avec Thierry Barbier, qui est justement le président de l'association des franchisés du groupe Carrefour. Bonsoir, monsieur Barbier. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir, monsieur Barbier. Merci d'être avec nous quelques instants sur BFM Business. Apparemment, c'est un vieux feuilleton. Ça fait des années que des franchisés attaquent Carrefour en justice et gagnent dans certains cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous reprochez au groupe exactement?
On reproche au groupe de nous cadenasser complètement par des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe nous fait croire qu'on signe des contrats de 7 ans et en fait, on est emprisonné pendant 99 ans, voire 30 ans sur les derniers contrats, où on ne peut pas se défaire de l'ancienne Carrefour. C'est-à-dire qu'on n'a aucune possibilité, nous, au bout de ces contrats, de pouvoir changer d'enseigne et donc de faire valoir la concurrence. Ce qui, donc, ça permet à Carrefour de nous imposer des prix de vente excessifs par rapport à notre clientèle et effectivement de nous affaiblir au niveau de nos marges.
Alors, on a lu aussi que les choses se dégradaient, en tout cas de votre point de vue, depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard aux manettes en 2017, et que la crainte, c'était quelque part que Carrefour devienne le prochain casino. Mais est-ce que c'est pas un peu exagéré quand même? Parce que sur le modèle économique, la situation est beaucoup plus saine.
Non, vous savez, bien sûr, ça c'est les données chiffrées que donne Monsieur Bompard. Vous savez, nous, on est sur le terrain, on vit tous les jours notre exploitation, et nous, on a une vision sur l'avenir. Monsieur Bompard a une vision, effectivement, à court terme, puisqu'il est là pour faire monter le cours de l'action et donner satisfaction aux actionnaires. Et nous, par contre, on a une vision sur notre société à long terme. Et on voit bien que nous, nos résultats se dégradent, parce qu'effectivement, Carrefour prend effectivement tous les bénéfices pour faire remonter au niveau des actionnaires. Et nous, on a une vision à long terme, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que petit à petit, notre clientèle ne vient plus. On a une baisse de fréquentation. Donc Carrefour va effectivement vous dire que c'est le contraire, parce qu'évidemment, lui, il multiplie les points de vente. Donc pour lui, effectivement, tout va bien. Mais nous, on s'aperçoit tous les jours qu'on a une baisse de chiffre d'affaires et on voit qu'on ne fait plus du commerce. Nous sommes des commerçants avant tout.
Mais alors, cette baisse de chiffre d'affaires, vous l'expliquez comment?
Parce que nos prix sont trop élevés. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas la possibilité de vous libérer, c'est-à-dire que Carrefour n'a aucune pression aujourd'hui, si vous voulez. Tous les contrats qu'il fait signer à ses franchisés ou ses locataires gérants, ils n'ont aucune possibilité de faire jouer la concurrence, c'est-à-dire de s'adresser à Intermarché, à U, à Auchan, à plein d'autres enseignes. Donc, Carrefour fait effectivement ce qu'il veut à l'intérieur, effectivement, de ses franchises et de ses locations gérance, et c'est lui qui pilote un petit peu nos gestions de magasins. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être des patrons indépendants, mais en l'occurrence, on ne l'est pas du tout. Nous sommes effectivement des patrons salariés.
Parmi les griefs, je vois donc obligation d'acheter aux centrales Carrefour à 45% au moins, et le fait que Carrefour entre au capital des sociétés d'exploitation à hauteur de 26%, ce qui lui donne une minorité de blocage sur la décision prise dans
la durée.
Combien de franchisés sont partie prenante de cette action en justice, Monsieur Barbier?
Aujourd'hui, on est plus de 200 franchisés. On espère qu'effectivement...
Il y a 5200 franchisés chez Carrefour. Vous êtes 200 aujourd'hui.
Ouais, 5200. Non, le chiffre est un peu élevé. Bien entendu, des franchisés indépendants, il y en a un peu plus de 3200. Donc, vous voyez, on n'est pas loin de 10% des franchisés. Moi, ce que je relève par rapport à ça, c'est que si effectivement le ministère de l'Économie, et en l'occurrence la
DGCRF,
a fait une action, si vous voulez, donc c'est qu'elle a effectivement bien vu par une enquête qui a été menée pendant 4 ans. Et faut rendre hommage à tous ces gens qui ont de ce service qui ont mené cette enquête qui est pas facile, ont bien fait ressortir ce déséquilibre sur lequel nous on se bat depuis 5 ans sur effectivement ce déséquilibre. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que régulièrement certains franchisés vont en justice. Alors en justice privée parce que Carrefour nous oblige à aller en justice privative. Mais oui. Carrefour en finalité sur le fond. Perd à 99%.
Oui, oui. Jean-Marc Sylvestre a une question à vous poser, Monsieur Barbier. Jean-Marc.
Oui, parce que c'est très intéressant ce que vous décrivez, surtout si on compare votre situation à ce qui se passe dans d'autres chaînes très franchisées, comme Leclerc, par exemple, pour ne pas la citer. Alors, les centres Leclerc ont l'avantage de ne pas être cotés en bourse, donc il n'y a pas ce thermomètre quotidien qui vient sanctionner la direction générale, mais j'ai le sentiment quand même, les franchisés Leclerc sont des vrais entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux. La question que je voulais vous poser, c'est 1. Est-ce que vous êtes propriétaire personnel de votre fonds de commerce? 2. Est-ce que vous êtes propriétaire de l'immobilier de ce fonds de commerce?
Thierry Berbier, en 45 secondes, allez-y, on vous écoute.
Oui, alors, en l'occurrence, effectivement, à 85% des cas, les gens sont propriétaires de leur fonds de commerce, mais qu'à hauteur de 74%. Vous avez les 26% de minorité blocage qui vous bloquent dans les statuts pour prendre toute décision, c'est-à-dire qu'on vous laisse aucune décision à la gérance de prendre des décisions importantes pour votre entreprise. C'est comme si vous étiez chez vous et c'est pas vous qui prenez la décision de ce que vous gérez. Donc c'est quand même incroyable.
Toute la différence.
Donc, et effectivement, au niveau des murs, à 85%, c'est Carrefour qui est propriétaire des murs.
Ouais. Edwige, pour conclure.
Ce qui change beaucoup juste par rapport à Intermarché, qui lui se développe beaucoup avec ce modèle-là. Et du coup, Carrefour, effectivement, a fait évoluer pour aller vers plus de franchisés, sauf qu'on découvre un peu les conditions dans lesquelles ça se passe. Mais Intermarché, les conditions sont beaucoup plus favorables ou pas du tout?
Alors, je ne connais pas les conditions d'Intermarché, donc je ne pourrais pas vous donner des précisions par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, si vous voulez, les gens de chez Intermarché sont libres, comme U sont libres, comme chez Leclerc sont libres de changer d'enseigne. Aujourd'hui, nous, chez Carrefour, on ne peut pas changer d'enseigne.
Oui. Mais donc,
on va avoir l'aval de Carrefour.
Oui, mais donc,
ils ont changé d'enseigne, ils sont libres de revendre leur magasin.
Et voilà. Faudrait. Mais donc, pour terminer, ce que vous préconisez, c'est une refonte structurelle du modèle.
Tout à fait. On n'est pas contre Carrefour, bien au contraire. Si on fait ça, c'est pour défendre l'enseigne, parce que nous, on est persuadé que.
Et c'est le cas depuis combien de temps, pardon, monsieur? C'est le cas depuis combien de temps? Depuis toujours?
Ah, bien sûr, depuis toujours.
D'accord.
Donc, si vous voulez, nous, on voit bien sur le terrain, si vous voulez, c'est que si on continue dans ce principe-là, ils ont du mal aujourd'hui à recruter des franchisés et des locataires gérants, parce qu'effectivement, il n'y a pas de perspective d'avenir. Oui. Et tel qu'on voit le modèle se faire aujourd'hui, eh ben, on prend le chemin de casino. Et c'est ça qui nous fait peur. Nous, on est là pour défendre l'enseigne. Il faut bien comprendre, l'AFC, l'association des franchisés, n'est pas là pour tuer Carrefour. Oui. Elle est là au contraire pour l'aider. Ça fait 3 ans qu'on essaie de discuter avec la direction, avec Benoît Souris, qui aujourd'hui, on leur a proposé de modifier les contrats, de faire des choses, si vous voulez, au fil de l'eau, pour qu'effectivement, on sait bien qu'effectivement, pour une entreprise comme Carrefour, apporter effectivement, libérer les choses comme ça, effectivement, ça mettrait en péril peut-être l'entreprise. Nous, on a demandé à ce que les choses se fassent au fil de l'eau. Eh ben, on a eu une fin de non-recevoir. On a discuté pendant 3 ans dans le vide.
C'est très clair.
C'est incroyable.
Merci beaucoup. Merci Thierry Barbier. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, président de l'association des franchisés de Carrefour. Et puis, comme on dit, on suit le dossier, évidemment, tous les jours régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 18h57. Ben, c'est fini. C'est passé très vite, cette première partie.
C'est fini, mais ça continue. On est ensemble en direct jusqu'à 20h.
Avec Jean-Marc qui nous rejoint dans un instant, 19h15, 20h. Edwige, on se voit pas demain. On sera à Eurosatory. On se retrouve jeudi.
On se retrouve jeudi. On parlera des paris sportifs. La folie des paris sportifs avec Isabelle Falque-Perrotin qui est la présidente de l'Argel, l'autorité de régulation justement de ces paris. Ça sera à la veille de
France-Pays-Bas, si je ne m'abuse.
Bravo.
Sans Mbappé.
Avec Mbappé?
Non, a priori, non.
C'est un pari qui va jouer quand même.
Ah bon?
Ah, bon, suspense. À suivre.
Mais paris là-dessus, tiens?
Pas pour vendredi, je crois.
Non. Bon, on verra. Allez, à tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.